7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, bienvenue sur RFI, les hommes et les voitures. Voilà une histoire d'amour qui remonte à loin et qui ne semble pas prête de s'arrêter. Le tuning, les vieilles voitures, la mécanique ou les maquettes de bolides en tout genre. Des passions, souvent masculines d'ailleurs, qui peuvent prendre beaucoup, beaucoup de place, de temps et d'argent dans la vie de ces passionnés. Pourquoi les hommes passent-ils autant d'énergie sur un simple tas de ferraille? Pourquoi et comment vit-on ces passions au quotidien? Et à quoi tiennent ces étranges relations entre un homme et sa voiture? On en parle aujourd'hui avec trois invités. Je commence par une femme, c'est Stéphanie Maurice. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur de La passion du tuning. Ça vient de sortir aux éditions du Seuil et c'est dans la collection Raconter la vie. Donc vous êtes plongé pendant un an dans le milieu du tuning. Vous êtes journaliste pour Libération dans le nord de la France. Donc vous allez nous raconter comment ces hommes transforment leur bolide en véritable objet d'art, c'est ce que j'ai découvert, puisque vous avez vraiment vécu ce milieu de l'intérieur. François Melsion, également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du salon Rétromobile. Alors là, on change de registre quand même. Là, on est dans les collections de voitures anciennes.
Oui, tout à fait. On est dans la voiture ancienne et puis la préservation et le patrimoine.
Avec un salon donc, qui se tient tous les mois de février, en début de mois de février à Paris. Et vous êtes toqué donc de voitures anciennes. Également avec nous, Jean-Marc Bellet, docteur en psychologie. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et vous avez publié Zen au volant, ça c'est le dernier ouvrage, guide du mieux conduire sur, donc avec vous on aura, ça c'est chez l'Harmattan, hein, avec vous on aura donc le regard du psy sur ses passions mécaniques. Les voisins, les voisines, exprimez-vous sur ce sujet, si vous retapez des heures et des heures votre véhicule pour l'embellir, pour le transformer, c'est aussi ça le tuning. Et qu'en pense votre femme aussi de vos passions mécaniques? Racontez-nous au 33 1 84 22 71 71 et nos réseaux Facebook toujours là pour vous. Alors les messages sur Facebook, tout de suite, il y a Bayard Ahmed Tazé qui nous écrit de Niamey, c'est au Niger. Alors lui, il aime les vieux modèles de 4x4, type Toyota Land Cruiser, très exactement, c'est sa passion. Il a grandi là-dedans avec ses parents qui l'emmenaient toujours avec eux. Il se souvient encore du bruit du moteur à 5h du matin. C'était un bruit sublime et c'est devenu une passion. Donc aujourd'hui, il les achète, ces 4x4, il fait des modifications aussi dessus et il les revend plus cher. Donc lui, il en fait quand même un business. Il y a Bruno aussi de Madagascar qui nous dit que là sur Facebook, il est sur pas mal de groupes de passionnés de mécanique. Ça va de chasseurs d'épaves aux anciens poids lourds aménagés en maison, aux sportives, aux tout-terrains. Et il est curieux donc de nous écouter et de découvrir d'autres passions automobiles aujourd'hui. Alors continuez d'échanger sur Facebook ou appelez Camille au standard au 33 1 84 22 71 71 pour participer à l'émission.
Vous êtes prêts?
Prêts.
Au signal. Go!
Les passions mécaniques des voisins, on commence avec le tuning. Alors ça, c'est un extrait de Fast and Furious, avec ces bolides qui sont engagés dans des courses de rue. Là, on est au début des années 2000. Alors j'ai appris dans votre livre, Stéphanie Maurice, donc sur la passion du tuning qui sort au Seuil. Là, on est vraiment dans l'âge d'or du tuning. On parle de quoi exactement derrière ce terme? Il n'est pas très connu quand même.
Oui, ouais. Si, c'est très connu, mais peut-être pas dans tous les milieux. Mais en fait, le tuning, c'est vraiment transformer sa voiture. Donc, on prend le modèle classique et on le transforme pour en faire, voilà, la voiture de ses rêves, en fait. Hein. C'est souvent une transformation esthétique. Donc, c'est son apparence extérieure, ce qu'on va transformer le plus souvent. Enfin, c'est en tout cas la forme la plus connue. Mais il y a aussi des passionnés qui vont jusqu'à transformer la voiture de façon mécanique. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, mettre un moteur très puissant dans une voiture de bas de gamme. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les sleepers. Donc, c'est une voiture dormante et ça permet, justement, dans les courses de rue. Alors, les courses...
Oui, ça surprend quand même. Voilà. Tout à coup, vous voyez une vieille petite voiture qui double tout le monde, voilà. Et qui arrive à 200 km/h, quoi. Enfin, ouais. Donc ça...
Alors, les runs sont illégaux en France, mais ils se tiennent quand même, hein, souvent dans les centres routiers, les grands parkings abandonnés le week-end, mais il ne se passe pas dans la rue comme ça peut être le cas dans Fast and Furious, parce que les vrais passionnés de tuning, eux, ils ont une seule trouille, c'est de rayer leur carrosserie, donc ils ne font jamais ça.
Mais il faut dire qu'ils y passent du temps sur leur carrosserie, parce qu'à vous lire, c'est un, ils les bichonnent, il y a presque un art, il y a une esthétique quand même propre au tuning.
Moi, je les vois vraiment comme des artisans. C'est ça qui m'intéresse. Alors après, on peut juger leur voiture ringard, beauf. Il y a souvent des jugements de valeur sur l'esthétique de leur voiture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est souvent des gens qui sont dans le milieu mécanique d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent bosser à Toyota à la chaîne. Ils peuvent également travailler pour Norauto. Enfin, ils sont vraiment souvent dans le monde automobile d'une manière ou d'une autre. Et quand ils rentrent chez eux le week-end, alors qu'ils ont passé leur semaine avec des modèles standardisés, eh bien, ils ont leur modèle à eux et ils le transforment. Et ils le transforment avec un talent de manuel, en fait. C'est pour moi un bel hommage, leur voiture, au talent de ces artisans. Enfin, il y a un retour au travail des mains, enfin, que j'aime bien, moi.
C'est hyper personnalisé. Ils veulent surtout pas ressembler à Monsieur Tout le Monde. C'est la hantise de cet homme. Ça vous parle à vous, le psychologue, Jean-Marc Bellet?
Oui, tout à fait, Sandrine. J'ajouterais sur ce que vient de dire Stéphanie, moi j'irais plus loin. Elles sont pas simplement des artisans, ce sont des artistes pour certains. Quand on voit les peintures qui sont faites, notamment sur les voitures, ou bien même maintenant sur les camions, on les voit aux 24 heures du Mans, par exemple en France, c'est absolument sublime. On voit cette recherche, chaque véhicule ne ressemble pas à l'autre, et là on retombe finalement dans cet aspect de se différencier des autres. C'est tellement triste d'avoir tout le monde la même voiture. Bon, il y a quelques couleurs qui se différencient, mais là elle est vraiment personnalisée.
Vous, ça vous plaît les peintures à paillettes avec des flammes, les ailerons sur les portières, le volant recouvert de moumoutes?
Non seulement cela, mais l'intérieur, l'habitacle du véhicule. Ah, on se croirait à un Cap Canaveral, avec tous ces compteurs, ces choses lumineuses à droite et à gauche. Ils sont planqués un petit peu là derrière avec les vitres fumées. Et puis si on a le courage de lever le capot, il faut voir ce qu'il y a dessous.
Il y a même des néons sous la voiture.
Voilà, avec des couleurs.
Pour que ça puisse mettre en valeur
des couleurs flashy. Et le dessous de la voiture, c'est surtout caractéristique, c'est lié à ce qui touche à la musique, au son. Là également, ce sont les champions. Alors, il y a des concours qui sont faits maintenant. Alors, voiture vitre fermée, on regarde la puissance, ainsi de suite. Et il y a quelqu'un qui vient donner la coupe à la fin, donc, de ce concours. Et là, les jeunes, bon, parfois, on l'ouvre pour montrer aux autres davantage. Et il y a ces effets de couleur en plus.
Vous êtes un passionné aussi de tuning.
J'ai eu la chance d'aller à Paris au salon du tuning, régulièrement pendant plusieurs années. Et là, j'ai découvert un autre monde. Moi, je connaissais l'automobile de Monsieur Tout le Monde. Mes études ont porté surtout sur dans le domaine du comportement, également de tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un sur le plan cognitif, donc par rapport à la voiture, mais là c'est un autre monde. Et j'étais vraiment enthousiasmé et j'ai adoré finalement voir tout ça, écouter les uns et les autres, comme vient de le dire Stéphanie en particulier.
Alors c'est le tuning cartonne dans le Nord surtout, mais ça prend des formes assez variées. Alors nous on va aller dans un garage, parce que Olivier, lui il collectionne des voitures des années 80, ça c'est sa passion, donc ça c'est dans un premier garage, mais depuis 2 ans, il a décidé d'aménager un autre garage. Et là, il l'a tuné aussi, son garage, pour en faire sa deuxième maison. Et Charlie Dupio a pu le visiter.
Bon, nous voilà dans mon garage. Donc, il y a à peu près 110 mètres carrés au sol. Et lorsqu'on avait fait construire la maison, on avait, dès le départ, décidé de faire agrandir tous les passages, pour qu'il y ait un maximum d'espace pour pouvoir faire circuler les voitures. Ma femme disait toujours, on a fait construire un garage et on a posé une maison dessus. Donc elle m'a laissé carte blanche pour le garage et je lui ai laissé carte blanche pour la déco au-dessus, quoi. Voilà, c'est la pièce où je suis seul maître à bord. Que ça soit mon petit musée à moi. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée de fond. Et une fois que la place a été faite, j'ai cherché sur internet des exemples de décoration. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette décoration avec un tiers du mur à peu près en gris pâle, deux bandes de couleurs qui sont bleu et rouge, et tout le reste, on va dire, un gros tiers en blanc. Voilà.
On voit qu'il y a beaucoup d'enseignes lumineuses suspendues au mur, accrochées. Jaune fluo, bleu, rouge, c'est vraiment très coloré.
Des plaques rallye, des plaques émaillées, champions, des feux rouges. Donc c'est un vrai feu de la circulation que j'ai trouvé sur une petite annonce. Là, j'ai aussi une pompe à essence.
Qu'elle a un peu rouillée, verte et grise.
Ah, donc c'est une vieille pompe BP que j'ai trouvée du côté de Valenciennes, achetée sur un site célèbre de vente aux enchères. Pour un prix dérisoire, fallait juste aller la chercher à Valenciennes. Donc
Valenciennes, c'est au nord de la France.
Voilà, c'est à environ 2h30 de la maison. Donc j'ai fait un aller-retour un soir pour aller la chercher, quoi, pour quelques dizaines d'euros.
Tout là, on voit un volant accroché au mur aussi.
Ah, c'est tout ce qui a attrait à l'automobile. Pour les pneus, j'ai même trouvé des plaques anciennes avec les pressions de gonflage préconisées, donc avec des voitures qui n'existent plus depuis longtemps, qui va avec l'esprit du garage.
Vous avez combien d'objets de décoration ici ?
Je saurais même pas dire, j'ai environ 150. Alors, tout ce qu'on voit au mur, j'ai commencé à le chiner il y a une quinzaine d'années. On va dire pour toutes les décorations, entre 1000 et 1200 euros. Voilà, j'ai une partie atelier, donc avec un établi. Il y a tout l'attirail du parfait bricoleur de voiture. Et puis, bien sûr, les véhicules collectionnés depuis ces 25 dernières années.
On en voit trois.
Voilà, trois plus la quatrième que j'ai laissée dehors. C'était pas tellement le côté collection, c'est vraiment les voitures qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Bah, depuis que j'ai 15 ans, en fait, c'était un électrochoc. J'étais à Paris. J'ai croisé, j'étais sur le trottoir, une Renault 5 Turbo 2 rouge, je m'en rappellerai toute ma vie. Et quand j'ai vu cette voiture, je suis resté arrêté, je me suis dit, waouh, j'en veux une. Et puis voilà, au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière professionnelle, j'ai pu en acheter une, deux, trois, quatre. Et en fait, surtout, pourquoi j'en ai quelques-unes aujourd'hui, c'est que j'ai jamais vendu une seule de mes voitures, en fait.
À quel âge est-ce que vous avez acheté votre première voiture?
C'est ma Renault 5 Alpine, je l'ai acheté à 19 ans. Turbo, de couleur bleu Alpine. J'avais pas beaucoup d'argent, comme tous les étudiants. J'ai sacrifié toutes mes vacances pendant 2 ans. Puis voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette voiture.
On peut rentrer à l'intérieur pour voir...
Ah oui, bien sûr.
Les sièges sont beige à l'intérieur.
En ce moment, je la conduis un petit peu moins parce qu'elle est garée au fond du garage. Il faut bouger toutes les autres voitures. J'essaie de faire au moins un rallye historique avec chacune des voitures tous les ans. Et voilà, c'est des sensations de conduite qu'on n'a pas dans les voitures modernes, quoi. Avec, en plus... Alors ça, c'est le revers de la médaille, toujours l'appréhension de se dire, bon, bah, on sait quand on part, et est-ce qu'on va rentrer, quoi. Bon, avec une voiture qui a plus de 30 ans, il y a toujours une appréhension, quoi. Alors je crache pas sur la voiture moderne, ce sont des super voitures, mais quand on monte dedans, c'est toujours un peu pareil, quoi. Alors que là, chaque fois qu'on change de voiture, c'est complètement différent, quoi. Et puis il va falloir que je fasse un autre garage juste à côté. Comme j'ai encore un petit bout de terrain, pourquoi pas mettre peut-être 2 ou 3 voitures de plus, quoi. Moi, j'adore passer du temps dans mon garage juste à le regarder, en fait. Puis j'ai une petite part là-bas au fond qui est plus ma salle de sport avec donc un sauna, appareil de musculation, vélo elliptique. Voilà, un canapé lit. Et puis mon bureau, puisque j'ai la chance de pouvoir travailler beaucoup de la maison. Et en plus, je suis au milieu de mes joujoux, quoi. Quand on vient à la maison, qu'on se garde devant, la première chose qu'on voit, c'est mon sous-sol. Et puis oui, c'est une certaine fierté aussi de dire c'est moi qui l'ai fait, quoi. On se fixe des objectifs dans la vie, mariage, enfant, maison, moi en plus il y avait voiture et garage, quoi. C'est comme tous les petits garçons, on joue tous aux petites voitures, il y en a pour qui ça s'arrête, et d'autres pour qui ça s'arrête pas, voilà. Donc on a juste changé d'échelle.
Et cette tendance de décorer son garage nous vient des États-Unis et ça se développe donc en France, hein, chez les passionnés d'auto, comme on l'a entendu là dans le reportage de Charline avec Olivier. Alors cette passion des automobiles chez les hommes, Jean-Marc Bellet, je dirais ça nous vient d'où? Vous avez écrit Zen au volant, c'est un guide du mieux conduire chez l'Harmattan. Il le dit, hein, il est au milieu de ses joujoux, c'est l'enfant qui n'a pas grandi, c'est l'homme qui n'a pas grandi, Jean-Marc Bellet.
Oui, effectivement... on est finalement, on avait ces grands principes d'éducation du jeune enfant, fille et garçon, avec le rose pour les filles, vous savez, le bleu pour les garçons, et puis la petite voiture, hein, on achetait des voitures qu'aux garçons, et ils sont là, ils font mumuse depuis l'âge de 3 ans avec une voiture.
Donc ils continuent de faire mumuse,
voilà, ils continuent
là,
à faire
ans,
mumuse, et puis ils sont là, puis ce sont les seuls qui ont parfois le courage de lever le capot pour voir ce qu'il y a dessous, ainsi de suite. Bon, je veux pas non plus trop stigmatiser avec les hommes, enfin on en est là, l'homme est un peu plus porté sur cette mécanique.
Mais c'est d'ailleurs une manière d'affirmer sa virilité.
Oui, on le retrouve notamment avec certains types de véhicules, les véhicules donc dits de sport. On a cité tout à l'heure la couleur rouge, la couleur de l'amour. On peut parler même donc d'érotisme en la matière. Hein, quand on a des belles voitures, comme va nous le dire tout à l'heure François, eh bien souvent on la caresse avant de monter à bord, on lui parle, et ainsi de suite. Donc il y a toute cette relation qu'il y a donc avec le véhicule qui perdure pour les hommes depuis l'âge de 2 ou 3 ans.
François Melcion, alors vous caressez votre voiture ?
Alors non, moi je la caresse pas, mais c'est amusant parce que quand tout à l'heure il disait qu'il avait acheté sa voiture jeune, moi la première voiture que j'ai achetée j'avais 15 ans et je l'ai toujours. Ça fait bientôt 40 ans que je l'ai.
Qu'est-ce que c'est comme voiture?
Oh, c'était une vieille Citroën C4. Alors, quand je dis 40 ans, non, ça fait bientôt 50 ans que je l'ai. Je ne me vois pas vieillir et elle ne vieillit pas non plus.
Et elle est toujours au fond du garage.
Ah, je m'en sers. Toutes les voitures que j'ai roulent, sont des voitures qui fonctionnent. Il m'arrive même d'aller au bureau avec une voiture parce que je pense qu'une automobile, elle est mobile. Une auto qui n'est plus mobile, pour moi, n'a aucun intérêt. Et dans ce monde de passionnés de voitures anciennes, il y a un petit peu les contemplatifs, il y a ceux qui restaurent, qui font tout de A à Z par eux-mêmes et qui après ne roulent pas. Et puis il y a ceux qui, comme moi, aiment bien rouler et puis aiment bien faire partager ce patrimoine dont on a hérité. Parce que je pense que dans l'automobile ancienne, un petit peu contrairement au tuning, il y a des choses qui se rejoignent dans la mesure où il y a la passion, il y a le temps passé, l'amour de l'automobile. Mais là où ça diverge, c'est dans l'automobile ancienne, il y a le respect de l'authenticité qui est là. Et qui est le côté patrimonial.
Il n'est pas question. Non.
Et alors, le
vous n'allez pas mettre des paillettes sur votre carrosserie de Citroën.
Sauf si elle en a eu à l'époque. Et le summum maintenant, en fait, et ça, c'est un mouvement que je suis complètement, c'est essayer de garder les voitures telles qu'elles étaient. C'est-à-dire que si on peut ne pas refaire les peintures, essayer de les garder et de préserver un objet, parce qu'un objet, il est dans son état d'origine une seule fois dans sa vie. Si vous le repeignez, c'est irréversible. Vous ne revenez jamais en arrière. Et garder un véhicule dans son état d'origine quand on le peut, là, c'est un petit peu maintenant quelque chose qui est le summum.
Alors, donc vous collectionnez des voitures anciennes. Vous en avez combien aujourd'hui?
Je dois avoir une dizaine de voitures anciennes. Et j'ai eu la chance de commencer il y a longtemps, donc en 67. Et à l'époque où les voitures ne valaient pas ce qu'elles valent maintenant, parce que maintenant il y a quand même un problème de prix. D'ailleurs, je crois que Olivier tout à l'heure collectionne les voitures des années 80. Alors, c'est vrai que souvent on collectionne les voitures dont on a rêvé étant gamin, les voitures qu'on n'a pas pu avoir. Et c'est d'ailleurs il y a une grande partie de la population de voitures anciennes qui ont maintenant, je vais faire peut-être un cliché, mais ils ont élevé les enfants, ils ont acheté leur maison, ils sont installés et qu'est-ce qu'ils ont envie de quoi? Ben ils ont envie de se payer leur rêve de gamin et ils achètent leur voiture. Alors après, c'est
donc
une
c'est la mode
de budget.
Des années de budget. Des voitures 60, 70, 80,
60, 70,
c'est ça.
80, ouais. Voilà.
Mais vous, bon, les voitures que vous avez, alors ce sont lesquelles?
Moi, c'est plutôt de tout. J'ai des voitures d'avant-guerre, enfin des années 20, 30 et des voitures des années 60. Mais vous savez
quel type, quel modèle?
J'ai une Bugatti, j'ai une Ferrari, j'ai une Alfa Romeo, j'ai des voitures diverses et c'est amusant parce que...
Et vous avez une alarme?
Non.
Vous n'avez pas d'alarme?
Non, j'ai confiance. Mais ce ne sont pas
petite
des voitures
fortune.
Qu'on vole. Ce sont pas des voitures qu'on vole. On vole des Smart, on vole des voitures récentes. Ce sont des voitures qui sont répertoriées, on sait où elles sont. Il n'y a pas trop de vols, sauf dans les voitures très, très courantes. Et je pense que si vous voulez, l'automobile ancienne, elle est liée, c'est vraiment la passion. C'est la passion de l'automobile. Et les gens qui aiment ça, je pense qu'il y en a qui peuvent dépenser beaucoup d'argent.
Ouais. Mais qu'est-ce qui vous passionne autant dans un tas de ferrailles?
Moi, j'aime rouler avec ces voitures-là. Moi, j'aime bien m'en servir. Et je pense qu'on a, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, on a des sensations autres que des voitures modernes. Je ne dis pas que les voitures modernes ne sont pas bien, puisque de toute façon, toutes les voitures modernes, un jour, seront des voitures anciennes de collection. Donc, à part que maintenant, il est un petit peu plus compliqué de collectionner les voitures qui ont jusqu'à 15, 20 ans à cause de l'électronique. L'électronique pose un gros problème pour le restaurateur, en tout cas pour celui qui bricole chez lui.
Donc vous, le plaisir, il est dans la conduite, c'est ça?
Il est beaucoup dans la conduite. Oui.
Alors vous restez avec nous, hein, François Melsion, directeur du salon Rétromobile, donc qui se joue toutes les années en début du mois de février. D'ailleurs, là, cette année, j'ai vu que vous aviez une femme sur votre affiche, c'est nouveau. On parlera justement du rôle des femmes dans ces passions dans la deuxième partie. Jean-Marc Bellet, donc docteur en psychologie, et Stéphanie Maurice, donc qui publie La passion du tuning aux éditions du Seuil dans la collection Raconter la vie, donc toute une série de reportages et d'immersions dans le milieu du tuning dans le nord de la France. Restez avec nous, on continue dans 3 minutes. Les voisins, les voisines, appelez-nous si vous avez des passions autour de l'automobile. On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71 et sur nos pages Facebook. On se retrouve tout de suite après le flash.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, merci de nous rejoindre sur RFI en avant Simone. Mais pas dans n'importe quelle voiture, aujourd'hui elle est personnalisée avec des ailerons arrière et des jantes larges pour se démarquer. On appelle ça aussi le tuning, à moins que votre cœur ne balance plutôt pour les voitures anciennes qui ont le vent en poupe. Quelles sont les différentes formes de passion pour les autos? Comment on développe une collection? Jusqu'où c'est acceptable aussi pour l'entourage? On va en parler avec trois invités aujourd'hui. Donc François Melsion, directeur du salon Rétromobile qui a lieu tous les débuts du mois de février à Paris. Toqué de voitures anciennes, on l'a compris, depuis l'âge de 15 ans. Jean-Marc Bellet, docteur en psychologie. Vous avez écrit et publié au mois de mars donc Zen au volant, guide du mieux conduire chez l'Harmattan. Et une femme, Stéphanie Maurice, journaliste, auteure de La Passion du Tuning aux éditions du Seuil. C'est dans la collection Raconter la vie. Donc c'est une série de reportages que vous avez effectué pendant un an pour entrer dans ce milieu du tuning. Alors on s'aperçoit que le tuning est encore très très vivace dans ce nord-là. Ils ont vraiment les voitures dans la peau dans cette région.
Oui, alors un peu dans toute la France, hein, pas seulement dans le Nord-Pas-de-Calais. Disons que le Nord-Pas-de-Calais est une région importante, mais c'est aussi une région traditionnellement de fabrication automobile. Hein. Donc ça explique aussi que vous y cliez aussi beaucoup de passionnés. C'est une région ouvrière et le tuning est une passion populaire.
Et vous disiez même dans la Réunion, à l'île de la Réunion aussi,
oui,
c'était
beaucoup,
très prisé.
Oui, je les salue s'ils sont là, c'est un gros spot de tuning français.
Et alors on va tout de suite avoir Mario aussi qui est un passionné de mécanique et qui nous appelle de Cotonou, donc en direct du Bénin. Bonjour Mario.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne des RFI, racontez-nous alors votre passion.
Ok, moi je considère la mécanique comme une aptitude supplémentaire puisque c'est depuis l'enfance que j'ai commencé à développer cette aptitude. Et même j'essaie de réparer même mes motos moi-même. Je peux faire la vidange facilement, changer les câbles, faire etc., etc. Et même si je constate que le problème est un peu compliqué, je vais chez le mécanicien. Mais une fois réglé le problème devant le mécanicien, c'est-à-dire une fois que le mécanicien passe ce problème-là devant moi, c'est-à-dire que la prochaine fois, pour un même problème, je ne reviens plus. Donc c'est un peu ça. Et j'ai même constaté que cela participe un peu à mon économie, quoi.
Oui, donc là, vous êtes effectivement bricolo, vous mettez les mains dans le cambouis et ça vous évite bien des dépenses, je dirais, en allant chez le garagiste. Donc c'est une passion.
Oui, oui.
Est-ce qu'à Cotonou aussi, est-ce qu'il y a des gens qui personnalisent leur voiture? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait?
Oui, oui, il y a beaucoup de personnes comme ça, hein. Que tu essaies de faire au moins tout au moins le minimum avant d'aller voir un technicien.
Donc
moi j'envisage même faire la mécanique après les études, quoi. Là, ça serait une connaissance supplémentaire.
Merci beaucoup à Mario pour votre appel depuis Cotonou. Mais vous connaissez, vous, Cotonou, Stéphanie Maurice, et vous avez vu là-bas des voitures personnalisées.
Alors, j'étais plutôt à Conakry, moi. En Guinée, et en effet là, les taxis sont personnalisés, c'est-à-dire qu'ils sont peints, sont avec des figures, des Marilyn. Enfin, ça m'a fait vraiment penser au tuning en France. En fait, dans toute l'Afrique, on peut retrouver des voitures personnalisées, tout simplement parce que voilà, on va les peindre aux couleurs qu'on aime bien et sans s'en rendre compte peut-être, mais on fait du tuning.
Mais le tuning tel que vous l'avez étudié, je dirais, dans la région du Nord-Pas-de-Calais, on bichonne sa voiture, on la personnalise, on fait de l'art vraiment. Mais il y a toute une culture autour des meetings, parce qu'après il faut la montrer sa voiture.
Oui, alors il y a deux types en fait, hein, d'endroits où les gens se retrouvent. Il y a le meeting, qui est le concours de beauté, hein. Donc là, les voitures, on s'inscrit et à la fin, en effet, on reçoit une coupe. C'est là aussi où se tiennent les concours de son, ce qu'on appelle les concours de SPL, hein. Donc on mesure la pression acoustique dans l'habitacle de la voiture et quand la personne, enfin le son le plus fort gagne, quoi, hein, généralement.
C'est-à-dire on ferme les écoutilles à l'intérieur de la voiture,
oui,
et on met sa sono à fond.
Oui, c'est ça. Alors c'est très subtil parce qu'il faut accorder sa sono à l'habitacle, ce qui est pas si simple. Donc ce sont des vrais techniciens très pointus, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et en plus, si vous voulez, les sonos occupent la plus grosse partie de la voiture, les puissances sont extrêmement fortes, les voitures ressemblent un peu à des EPA parce que quand le son monte, en fait, elles vibrent totalement et vous avez même les, comment dire, tout ce qui est écrou, etc., qui saute. Donc ce sont des voitures qui sont quand même dans des états pas terribles. Et d'ailleurs, il y a des concours mondiaux hein, de SPL. Les vraies voitures de compétition arrivent sur plateau, dans des semi-remorques, parce qu'elles sont avec des parois, par exemple, coulées avec du béton pour vibrer le moins possible.
Vous avez des casques pour ce genre de concours?
Eux, en fait, ils se tiennent à l'extérieur et ils déclenchent à distance.
Je ne connaissais pas cette passion.
Voilà, par exemple. Hein. Donc ça, c'est le meeting.
Il y a une preuve d'inventivité assez incroyable. Donc ça, c'est le meeting. Donc ouais. Le concours de beauté. Il y a d'autres choses où on fait ronfler le moteur aussi. Il y a des courses.
Ça, les runs, c'est illégal. Donc ça ne se passera pas sur les meetings. On verra ça plutôt éventuellement dans ce qu'on appelle les rassemblements, les rassauts hein, en langage d'initié. Là, ce sont des amateurs qui se réunissent sur tous les parkings qui sont normalement déserts la nuit. Donc sur les parkings des centres commerciaux. Vous quittez votre hypermarché préféré, bien vous ne savez pas qu'à partir de 22h, ça devient un lieu où vont se retrouver des voitures tunées.
Alors c'est comme un lieu d'exposition, chacun vient admirer.
Voilà, on regarde le travail de l'autre, on s'échange des nouvelles. Alors l'hiver est passé, c'est le moment du bricolage l'hiver dans le garage, donc on regarde comment son copain a transformé sa voiture, on se donne des conseils, on se refile des bons plans. Une peinture pailletée coûte cher, mais on va plutôt acheter les paillettes à la farfouillette et puis les mélanger. J'ai un vernis, par exemple. On va refiler le bon plan de ce qu'on appelle le covering, parce qu'aujourd'hui, on ne peint plus forcément sa voiture. On peut la recouvrir d'un film qui la transforme avec des matières autres, peau de lézard, peau de serpent, etc. Et on l'enlève très facilement, ce qui permet de retrouver la couleur originale de la voiture.
J'ai vu qu'il fallait utiliser de la choucroute aussi.
Oui, ça, c'est le mastic fibré, hein, qui permet de donner des nouvelles formes à la voiture en moulant le mastic fibré, en effet. Et donc ça permet de la transformer soi-même. Mais maintenant il y a des kits qui s'achètent pour pas cher sur internet. On peut transformer sa voiture maintenant pour 300 €.
D'ailleurs, que ce sont souvent des passions dévorantes suite aux reportages que vous avez fait. Qu'en pensent les femmes, les hommes? Est-ce qu'ils se laissent complètement déborder par cette passion?
Les femmes, elles sont plutôt sympas avec leurs hommes. En fait, elles sont là. En fait, les meetings ou les rassemblements, c'est souvent le week-end et elles, c'est l'occasion de voir leurs copines. Donc en fait, l'ambiance des meetings, c'est qu'on plante la tente. Vous savez, c'est Barnum, on se retrouve entre copains avec la glacière, avec les bières et le coca. Les enfants, il y a toujours des animations pour les enfants, du karting, des choses comme ça. Et les femmes sont entre elles et elles papotent. Donc en fait, les femmes ne sont pas du tout exclues de cet univers qu'on pourrait croire très masculin. Certaines d'entre elles tunent. Elles font généralement beaucoup rire. Elles ont des autocollants. Par exemple, cette voiture n'est pas
mon
boyfriend. It's not my boyfriend's car. Donc voilà, elles peuvent être très bonnes, hein. En tuning, elles sont plus rares, mais
il y a Brigitte qui grave les vitres arrière des voitures. Oui. Elle a son petit stand.
Oui, voilà. Elle est auto-entrepreneuse et ça lui permet de compléter ses revenus. En fait, elle est tombée amoureuse d'un homme passionné de tuning. Elle était déjà graveuse sur verre pour son loisir et du coup, c'est devenu une manière d'allier les deux. Mmh. La passion de son mari et sa passion à elle. Et elle adore l'univers du tuning qu'elle a découvert avec lui.
Les femmes ne reprochent pas à leur mari de mettre tout leur argent, tout leur temps dans cette voiture.
Généralement, il peut y en avoir, hein, évidemment. Mais généralement, ce qu'elles disent, c'est que tant que ça ne nuit pas ni au remplissage du frigo, ni au loyer à payer, ça ne les dérange pas.
Jean-Marc Bellet, vous êtes donc docteur en psychologie. Hein, vous avez écrit un livre, Zen au volant chez l'Harmattan. Alors, toutes ces passions, qu'est-ce qu'elles nous disent de ces hommes, de ces voitures personnalisées? Je ne sais pas, la voiture, c'est un espace clos, cette voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on veut en faire comme ça un cocon?
Oui, il faut absolument donc... on disait personnalisation, pardon, à outrance en la matière. Un véhicule donc unique, comme le pilote d'ailleurs. Et donc, à l'occasion de ces rencontres, eh bien, on montre tout son savoir-faire. Et puis, moi, je serais plus nuancé, donc, Stéphanie, sur le plan donc financier. Hein, il y en a qui engloutissent pratiquement toute leur paye là-dedans. Et ça fait pas toujours plaisir donc à l'ensemble de la famille. Hein, ils sont en rouge à la banque parce qu'ils voulaient absolument prendre les jantes dernier modèle, ultra basse et compagnie. Il y a un problème d'argent hein, autour de ce tuning. Je parle pour ceux qui veulent le faire de cette manière-là, avec le dernier cri, que ça soit autour du moteur, tubulure, ainsi de suite, que ce soit sur le plan du son, la radio et ainsi de suite, avec un coffre, il y a que ça, hein, il y a que des baffes de toutes les dimensions, et puis également sur le plan mécanique pur, c'est-à-dire pour gagner quelques chevaux et ainsi de suite. Donc le problème financier n'est pas à exclure, et qu'il y ait des épouses, des femmes, donc qui s'accordent à cela et qui l'acceptent, tant mieux, mais en général, moi je l'ai vu au cours d'entretien, je l'ai entendu au cours d'entretien, certaines en ont plus que marre, hein, de leur homme qui est plus donc avec la voiture qu'avec elle, hein, c'est leur deuxième épouse. Hein,
mais est-ce que ces hommes-là, effectivement, préfèrent les voitures à leurs femmes ?
C'est-à-dire qu'il y a tellement, pour un passionné, et je crois que François pourra nous le confirmer, pour un passionné, il est 100% avec sa voiture. Dès qu'il a un dollar de plus, il le met pour changer telle vis, telle tubulure dans son véhicule. Il est là-dedans, il compte pas son temps. Hein, si jamais il part dans le domaine de la restauration ou bien de la modification, donc avec le custom des véhicules, que ce soit d'ailleurs des motos, on le voit même avec des voitures et motos, eh bien là il prend tout son temps. C'est-à-dire que les soirées sont là-dessus, les week-ends, et c'est vrai que parfois un peu d'oxygène, ils vont donc à des grands rassemblements pour montrer un petit peu leur voiture. En fait, ils veulent une voiture unique, une voiture qui leur ressemble, donc une voiture exceptionnelle. Et quand on la voit, finalement la plus grande joie, c'est que les autres applaudissent ou deviennent envieux, hein, d'avoir un tel véhicule.
François Melsian, vous vous reconnaissez dans ce portrait du passionné ?
Alors, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps, mais moi, j'aime bien rouler. Et pourquoi j'aime bien rouler ? Parce que j'aime bien partager avec ma femme et le plaisir de reprendre des petites routes, de redécouvrir qu'en France, il y a des églises, des châteaux, des restaurants sympathiques où vous pouvez vous arrêter. Et en plus, vous allez n'importe où vous arrêter, il y a forcément quelqu'un qui a une voiture ou qui connaît quelqu'un. Vous faites des rencontres assez extraordinaires. Moi, j'en ai fait dans le monde entier. De par mon métier, j'ai dû voyager pas mal. Et il y a des collectionneurs. Alors, vous pouvez mettre l'un à côté de l'autre un ouvrier à la chaîne et un patron du CAC 40. Ça ne pose aucun problème. Ils parlent le même langage. Ils se tutoient tout de suite. Ils s'appellent par leur prénom. Il n'y a aucune barrière. C'est ça, c'est un petit peu la magie. C'est le côté passion. C'est la passion qui prend le dessus. Et donc, je trouve que c'est un côté agréable que de partager cette passion avec son épouse, si tant est qu'elle aime ça. Moi, j'ai la chance qu'elle aime ça. Et c'est vrai que grâce à cela, on a, comme je disais tout à l'heure, été dans des endroits dans lesquels je ne serais jamais allé de ma vie.
Oui, ce que vous dites, ça provoque aussi des rencontres quand vous vous promenez avec votre voiture ancienne.
Bien sûr.
Les gens s'arrêtent autour de vous, ils sont curieux et du coup,
Oui, et puis lorsque vous restaurez une voiture, vous avez besoin de certaines pièces, donc vous vous renseignez, vous rencontrez des gens qui ont les mêmes que la vôtre ou qui connaissent, qui ont le bon filon, et il y a des amitiés qui se lient. Alors, quelquefois, vous tombez, vous savez, c'est comme dans la vie, hein, y a des gens plus ou moins intéressants. Ce qu'il faut, c'est savoir serrer. Et comme il y a des voitures plus ou moins intéressantes, à mes yeux, mais qui seront pas forcément les mêmes pour d'autres.
Alors là, on va parler de 4x4. Je sais pas si c'est des voitures intéressantes à vos yeux, François Melsian. Mais nous avons Ahmed qui nous appelle de Niamey, je crois. Oui. Bonjour, Ahmed.
Allô, oui, bonjour.
Bienvenue sur l'antenne des RFI. Alors vous, votre passion, c'est les 4x4. Racontez-nous.
Oui, au fait, le lien, il a été créé depuis mon très bon âge. Donc, c'est grâce à mes parents, en fait, ils sont sur ce lac et ils ont passé beaucoup de leur temps à voyager dans des missions. Et les 4x4 étaient adéquats pour leur zone qui sont destinées, quoi.
Donc ça, vous étiez enfant, vos parents roulaient beaucoup dans des 4x4 pour leur mission, si je comprends bien, parce qu'ils étaient sociologues. Et donc, vous, vous avez continué après à acheter des 4x4, hein.
Oui, au fait, j'ai commencé par des petits véhicules, mais comme j'ai choisi de le vendre, ça ne m'a apporté rien, donc c'est là que je me suis intéressé au 4x4.
D'accord, mais vous le faites, vous en faites votre business, en fait. Vous achetez, vous réparez, voilà. Vous revendez.
J'achète une épreuve, par exemple, quelque chose qui ne roule même pas, qui n'a même pas de moteur. Donc là, je monte le moteur avec mes amis mécanos et les pneus, les ressorts, et j'en fais une dame neuve, comme on dit, quoi.
Une dame neuve, c'est votre expression, voilà. C'est ça.
D'accord.
Et après, vous vous en séparez de votre dame.
Oui, si vraiment je tire bénéfice, oui. Mais il y en a une qui actuellement, je compte pas m'en séparer.
Vous l'aimez trop, celle-là.
Ouais, on dirait ça, ouais.
D'accord. Merci beaucoup.
Bon, en fait,
oui.
Bon, hier, on les appelle le chameau des Touaregs, comme on dit. Il n'y a que les Touaregs qui sont intéressés par ce genre de véhicule.
C'est vraiment une passion, d'accord, de Touareg. Merci beaucoup, Ahmed, pour votre témoignage depuis Niamey. Alors, est-ce qu'il peut avoir le profil, je dirais, Ahmed, d'un vrai collectionneur, dans le sens où il revend ses voitures pour acheter d'autres? Est-ce que ça fait partie aussi d'un type de collectionneur,
Bien François sûr, parce Mèche, que ouais. Tout le monde n'a pas forcément un compte en banque sans fonds. Donc, moi, je sais que le premier, j'ai acheté des voitures, que j'en ai revendues pour acheter mieux, pour à chaque fois remettre une petite somme d'argent supplémentaire. Et on essaye toujours d'avoir, vous savez, il y a la quête du Graal, il y a un peu l'objet mythique dont on rêve. Et je pense que lui, il achète et il vend, et puis un jour, il va peut-être en garder un, parce que ça sera, il aura les moyens de le garder. Et je pense que c'est un point commun. Il y a beaucoup de collectionneurs qui achètent et qui revendent, pour justement, ce qu'on disait, c'est essayer d'avoir un petit peu mieux et toujours quelque chose de différent.
Alors on écoute tout de suite Yaz Young Chicks et on reprend la route avec des voitures de collection par exemple. Ont-elles toujours la cote ? Y'all ain't about shit. Y'all ain't about shit. Tony Nugs on the track. Rock with me, Young Chicks, let's go. Y'all ain't about shit. I already know what y'all about. Y'all ain't about shit. But you ain't taking care of your kids. Y'all ain't about shit. You and your men the same brothers. Wanna change your wind, change colors. Y'all ain't about shit. Homie, we can see right through you. Everything we do, you know. Y'all ain't about shit. Y'all ain't about shit. Y'all ain't about shit. A grown man and a grown man business. Why you gotta act like some bitches? Y'all ain't about shit. Niggas wanna beef on the internet. Bandit, I ain't even into that. Y'all ain't about shit. I'm at the clear pool with my whole team. Y'all ain't about shit. This is Star Wars, need new lasers. Interviews with the newspaper. Y'all ain't about shit. I wrote the solo drums with no mix. A couple high hits and low kicks. Y'all ain't about shit. Y'all haters wanna worry about me. Nah, nigga, don't worry about me. Y'all ain't about shit. Nah, homie, I ain't worried about y'all. Better trust, I ain't bothered by y'all. Y'all ain't about shit. Y'all ain't about shit. Y'all ain't about shit. Niggas in the club with a bitch, but you ain't taking care of your kids. Y'all ain't about shit. You and your men the same brothers. All the change of wind, change colors. Y'all ain't about shit. Homie, we can see right through you. Everything we do, you do. Y'all ain't about shit. Y'all ain't about shit. Y'all ain't about shit. Shout it out, Young Chizzes in the building. I ain't coming in to spare feelings. Y'all ain't about shit. Oh, you bought a weed from the store, then you said since you bought it, then it's yours. Y'all ain't about shit. Niggas tie weed for the house, no food for the seed in the house. Y'all ain't about shit. Go kill yourself, really, homie. Do you hear yourself? Y'all ain't about shit. Fake people really love a lot, oh, they really shouldn't even be alive. Y'all ain't about shit. Duckies don't hate that line, no, my, I ain't in my prime. Y'all ain't about shit. Still niggas won't worry about me. Nah, nigga, don't worry about me. Y'all ain't about shit. On parle des passions mécaniques des voisins, des voisines, aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Le tuning, on va revenir avec vous Stéphanie et Maurice pour votre passion des tunings qui sort chez Au Seuil. Ça a quand même une mauvaise réputation et ils ont cette image qui leur colle à la peau d'avoir un mauvais goût, ils sont une touche de mépris. Mais vous, on les voit comme des gros beaufs, en gros, en résumé. Oui,
Des jackies,
ils en souffrent.
Oui, beaucoup. Au point qu'ils ont été tellement caricaturés dans les émissions de télé-réalité, justement sur la thématique « Ils dépensent tout l'argent et la femme pleure au domicile », qui est quand même, pour moi, n'est pas la réalité, en tout cas, que j'ai rencontrée. Qu'ils en souffrent énormément et ils ont peur du journaliste en fait. Ils ont peur du journaliste, ils ne lui font pas confiance parce qu'ils ont l'impression que tout ce qu'ils vont dire vont être déformés sous ce prisme-là. Et il y a une vraie défiance qui m'a surprise parce que dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région accueillante où généralement on est toujours bien reçu. Et là, il y a une vraie... On vérifie qui vous êtes et ce que vous avez envie de raconter finalement.
Mais l'âge d'or vraiment du tuning, elle est derrière nous maintenant. C'était dans les années quoi, 90, 2000.
2000, ouais. Oui. Sur la forme tuning à paillettes, que moi j'appelle le tuning disco, très voyant. En fait, on s'est tellement moqué d'eux du coup que les nouvelles générations ont tourné la page et préfèrent dire qu'ils personnalisent l'automobile, hein, donc personnalisation automobile, et on est sur une forme de tuning sobre en fait qu'on appelle le German look par exemple, qui n'est plus du tout dans les excès du disco à paillettes et à ailerons, qui est plutôt grosse jante, voiture rabaissée, mais toujours dans un look classe, voilà. ou alors le Japano qui est encore autre chose, hein, plus manga, ou qui va être aussi très branché sur ce qu'on appelle les performances sportives avec le drift en fait. Donc ils équipent les voitures pour qu'elles soient capables de faire des dérapages contrôlés sur des circuits comme à Manicourt par exemple. Donc il y a des tendances différentes aujourd'hui. Mais il reste quand même les anciens qui continuent vaille que vaille à mettre des paillettes dans leur peinture et des lumières dans tout leur habitacle, et qui se servent d'ailleurs de leur coffre généralement comme une vitrine où ils illustrent leur symbole fétiche. Chaque voiture tunée a un symbole fétiche, par exemple. Donc le loup, eh bien vous allez avoir dans le coffre une scène de forêt avec des loups qui courent en miniature, par exemple. Ce tuning-là existe toujours, heureusement, parce que c'est quand même ça le plaisir quand on va sur meeting, c'est bien de voir celle-là.
Et est-ce qu'on peut customiser, personnaliser des voitures anciennes, Stéphanie?
Oui, d'ailleurs, Maurice, c'est un genre particulier qui s'appelle le custom. Alors, évidemment, c'est-à-dire c'est que là, on prend une voiture ancienne et on la transforme, ce qui pose un problème pour les vrais collectionneurs comme François, puisque là, ce ne sont plus les pièces d'origine. Le tuning ne travaille pas avec les pièces d'origine, alors que le collectionneur de voitures anciennes, lui, ce qui l'intéresse, c'est de revenir à un état originel. Et donc c'est une forme nouvelle de tuning, enfin nouvelle en tout cas en France, une nouvelle tendance qui marche de mieux en mieux en effet.
Alors François Melsion, directeur du salon Rétromobile, vous nous avez avoué avoir une vingtaine de voitures que vous
connaissez.
Je voyais plus grand, je voyais plus grand pour vous. Qui sont les plus grands collectionneurs de voitures aujourd'hui?
Alors des collectionneurs de voitures, il y en a assez vraiment disséminés dans le monde. Je pense que le plus gros des collections se trouve aux États-Unis, puisque les Américains ont acheté les premiers les voitures assez chères, et la France s'est vidée de toutes ces grandes collections de voitures. Elles sont beaucoup parties aux États-Unis. Il n'est pas rare aux États-Unis de tomber sur des collections de 200 ou 300 voitures. Ça, c'est quelque chose d'assez courant. Ensuite, il y a les Anglais, qui sont des gens très conservateurs, qui ont également un réservoir automobile énorme, puisque d'abord, il n'y a pas eu les destructions des guerres comme il y a eu en France ou en Allemagne. En France, il y a encore, je vous rassure, quand même pas mal de collections. Et puis, tous les pays européens, l'Allemagne, Benelux, tout ça, il y a de très belles collections. Alors, on a quelques collectionneurs russes. L'année dernière, on a eu une vente à Rétromobile, on a eu des Lituaniens, j'ai vendu une fois une voiture en Sibérie. Et dans les pays émergents, et alors Chine, zéro, à part les gens qui habitaient Hong Kong et qui ont des voitures soit stationnées aux États-Unis, soit stationnées en Angleterre, parce qu'en Chine...
Donc les milliardaires chinois n'ont pas de passion
pour
les
vieilles automobiles. Pas encore, je pense que ça va venir. Oui. Une raison très simple, c'est qu'on n'a pas le droit d'importer quoi que ce soit d'occasion en voiture en Chine. Donc une voiture ancienne, c'est forcément d'occasion.
Et quelles sont les marques favorites des collectionneurs?
Alors ça, c'est une question de goût. Si vous aimez les voitures d'avant-guerre, ça va être Bugatti, Alfa Romeo, les grandes voitures françaises comme les Delahaye, Talbot, Delage. On parle souvent de Rolls, mais Rolls, c'est pas forcément la voiture la plus collectionnée et c'est pas forcément la voiture la plus rare, parce que les Rolls, en général, elles ont beaucoup survécu. Il y a eu peu de Rolls cassés et il en reste beaucoup, beaucoup.
Donc l'offre fait que le prix est accessible, vous pouvez acheter une Rolls.
Vous pouvez acheter une voiture, une Rolls des années 80 ou 90 pour 10 000 euros. C'est moins cher qu'une voiture, une petite voiture d'occasion.
Mais après, faut l'entretenir, faut qu'elle roule
après,
aussi.
Après, faut l'entretenir. Non, et puis il y a un impératif que je dis toujours aux gens qui veulent acheter une voiture. La première chose qu'il faut avoir, c'est un garage. C'est la première chose qu'il faut, c'est avoir un garage et un peu de temps.
Et on peut rouler avec un permis de conduire normal avec des voitures?
On roule avec un permis normal. Et alors, il y a des gens qui me disent toujours, mais comment vous faites pour rouler? Ben, je dis, vous savez, en 1930, les gens, ils roulaient. Donc, il n'y a pas de raison que maintenant, on ne roule pas avec ces voitures-là. D'autant qu'on a, en plus, maintenant, des lubrifiants qui sont meilleurs. On a des carburants qui sont meilleurs. Donc, je vois pas le problème. Si la voiture est bien refaite, il n'y a aucun problème. Alors, il y avait des mauvaises voitures dans les années 30, sont toujours des mauvaises voitures maintenant, et une bonne voiture est toujours une bonne voiture.
Jean-Marc Bellet, docteur en psychologie, c'est quoi au fond la motivation profonde, je dirais, de tous ces collectionneurs, ces passionnés de mécanique, d'auto?
Eh bien écoutez, dans le champ des loisirs, ils ont fait leur choix, la voiture. Moi je dis tant mieux. C'est quelque part mon métier, tout ce qui touche à l'automobile. Je dis tant mieux qu'il l'ait choisi, mais ça pourrait être des collections, je ne sais pas, de papillons ou de je ne sais ou d'autres. Là, ils ont fait le choix de la voiture et tant mieux. Pour les voitures anciennes, eh bien c'est la préservation donc de tout le domaine historique de l'automobile. Hein, ils mettent des moyens là-dedans, ils donnent du temps. Alors je dis bravo, double bravo. Et pour les jeunes, donc cette passion, bah, ça leur évite peut-être de faire autre chose.
Mais le fait de collectionner, d'accumuler, c'est pourquoi ? C'est pour combler un vide ? Qu'est-ce qui je dirais votre côté un peu psychologue de la chose.
Oui, ben, quelque part, donc, on l'a dit au début de l'émission, donc il leur manquait donc quelque chose, ils en rêvaient éperdument, et là, dans leur vie, donc ils ont les moyens finalement d'assouvir cela, et ils franchissent le pas, une première voiture, et ensuite le système s'enclenche.
Mais c'est une manière d'exister à travers le regard qu'on porte sur leur voiture. Oui,
oui, moi, je voudrais rebondir sur le livre de Jean-Marc, que je n'ai pas lu, mais qui me donne envie de lire. Et je pense que c'est aussi au niveau sécuritaire. Ce sont des gens qui sont très respectueux de leur voiture. Ils tiennent à leur voiture. Donc, ils conduisent très prudemment. Et l'accidentologie est pratiquement nulle dans l'automobile ancienne. Et d'ailleurs, ce qui fait avoir des tarifs d'assurance qui sont pour rien. Vous pouvez assurer une voiture, ça ne coûte rien. Donc, je pense que ce sont des gens qui sont très respectueux de leur voiture, donc forcément des autres.
Merci beaucoup, hein, François Melsion, donc directeur du salon Rétromobile qui se tiendra début février à Paris. Également avec nous Jean-Marc Bellet, docteur en psychologie. Votre dernier livre, Zen au volant, ça a paru chez L'Harmattan. Et Stéphanie Maurice, donc journaliste, auteur de La passion du tuning aux éditions du Seuil dans la collection Raconter la vie. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Merci aux auditeurs. Demain, l'ennui au travail, c'est le sujet. Être payé à ne rien faire, c'est le plus gros tabou professionnel. On en parle. Lâchez-vous sur nos réseaux sociaux et appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 si vous êtes concerné par le bore out. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et avec des formes d'épuisement professionnel au travail en ne faisant rien. À demain. Portez-vous bien.